Il est l'heure de retrouver votre émission Écriture dessinée en compagnie de Bruno. Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Aujourd'hui, on rencontre une rencontre avec un des auteurs de cette nouvelle génération qui bouleverse les codes et les attendus de la bande dessinée. Anis El Amouri, marocain et belge, diplômé de l'école Saint-Luc de Bruxelles et de l'Académie royale des beaux-arts de Liège, a démarré en 2022 « Il brûle », un triptyque dont le second volume « Prison et ciel » vient de paraître, où Georges, Ongles et Pluie se débattent dans un monde violent où ils luttent pour échapper au statut de sorcière. À tout de suite.
Écriture dessinée.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, la programmation musicale a été faite par Anis El Amouri. Nous écouterons successivement First Love de Mitski, Green Man d'A.G. Cook et American Teenager d'Ethel Kahn. Une brève qui vient s'ajouter à la longue suite d'informations qu'il y a sur le Festival d'Angoulême et sa prochaine édition de 2026. Alors, beaucoup d'infos ont traité de la société de Franck Bondou, 9e art plus, qui a passé un moment, a été renouvelé dans sa gestion. Du festival à partir de 2027, et donc cette prolongation a été annulée à cause de la contestation, à la fois celle des auteurs et celle des éditeurs qui se sont ajoutés à eux et à elles, puisque ils ont dit bah, s'il n'y a pas d'auteur, on ne va pas venir parce que les gens vont. Même si c'est une belle et grande librairie avec beaucoup de livres, il n'y aura pas d'auteur pour les dédicaces. Et donc le public risque de ne pas venir. Alors, l'autre information qui commence à se développer, c'est celle de la responsabilité de l'association du FIBD, du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, qui est propriétaire du festival et qui l'administre. Elle est dirigée par Delphine Groux, qui est la fille d'un des co-créateurs du festival, Christian Groux. Et donc, cette association a aussi une responsabilité, puisque c'est elle qui avait accepté et qui avait voté la reconduction de 9e Art Plus pour une nouvelle session de festival. Et donc, il y a aussi un problème donc à ce niveau-là à régler pour que cette association également retrouve une conduite vis-à-vis du festival et une attitude qui soit beaucoup plus respectueuse à la fois des auteurs et des autrices, mais également du public. Simplement pour donner un chiffre, l'année dernière, en 2024, le prix d'entrée du pass, c'était 45 € et il est passé à 60 € pour l'année 2025, et ce qui est non justifié au vu des résultats. Donc c'est un moment important parce que l'édition 2026 est encore dans la tourmente, rien n'est réglé, les auteurs sont bien décidés à poursuivre leur boycott compte tenu de la présence, encore une fois, de 9e art plus à la tête du salon avant qu'ils passent définitivement la main. Donc c'est encore une histoire à suivre. Shadok. Les moustiques, pardon, excusez-moi. Alors, Alors, j'ai décidé d'encadrer le livre de Anis El Amouri, Il brûle, par deux autres livres qui sont dans cette même communauté d'esprit, un rapport au tragique, une qualité d'écriture, de mise en image, avec bien évidemment des timbres et des tonalités différentes, mais on sent un rapport à la création avec vraiment des proximité importante. Le premier, c'est Iris, de Fabian Menor. Alors, c'est un livre, quand vous découvrez, vous feuilletez, c'est toujours important de feuilleter une bande dessinée, pas pour choisir par rapport au dessin, mais quand, à force d'en lire, vous avez un œil exercé, vous voyez comment le créateur, l'auteur développe des partis pris et ainsi conduit sa narration avec un certain nombre de codes déjà existants ou d'autres qu'il crée. Et c'est déjà les premiers moments de la lecture où le lecteur se plonge et s'imprègne de ces codes pour suivre pleinement le récit. Fabien Menor a procédé de cette façon. Il a choisi par exemple une mise en image avec une certaine régularité, une présence du blanc importante dans la case. C'est toujours important ce rapport au blanc. C'est une façon aussi d'exprimer le vide, puisque le blanc de la case va être le même que celui du fond de la double page. Et puis il y a un dessin au trait, un dessin au crayon de couleur avec cette matière donnée par la trace du crayon sur ces papiers à grains qui anime la couleur et qui donne une douceur, une intimité importante à chaque image. Ça, c'est les premiers contacts, mais maintenant, rentrons un peu plus dans le récit. Iris est une artiste peintre reconnue qui, malgré son grand âge, se dévoue toujours avec passion à son art, une peinture abstraite tout en ligne et en droite. Frappée par une maladie oculaire dégénérative, Iris doit se résoudre à perdre sa totale et précieuse indépendance et à rejoindre un foyer pour personnes âgées. Elle doit alors faire face à un nouveau quotidien qui la ramène à sa propre vulnérabilité, mais qui lui permettra aussi de faire face à certains vieux démons issus de son passé. De sa maladie irrémédiable, elle fera une force pour se réinventer, et c'est une touche de lyrisme alimentée d'une ultime pulsion de vie qui va ainsi bouleverser son art comme son rapport au monde. Derrière sa figure d'artiste détachée, aussi acariâtre qu'attachante, on découvre alors une femme résiliente qui s'appuie sur ses lignes droites pour tenir debout. C'est un très beau thème parce que peu traité en bande dessinée. Il y avait eu ce très beau livre de Pablo Roca, Ligne de vie, qui avait, où il avait réussi à représenter ces moments d'absence de mémoire. Et là, dans le cas d'Iris, c'est vraiment cette à la fois dimension artistique qui est à l'œuvre, et c'est aussi donc cette façon dont cette femme qui vit seule, qui est indépendante, qui a un travail d'atelier, doit faire face à la fois à la maladie et à cette obligation de devoir intégrer un foyer de personnes âgées. Alors, ça n'arrive pas comme ça pour un auteur, un jeune auteur. Fabien Menor est né en 80, je vais vous le dire parce que je l'ai noté, en 97. Donc vous voyez, il a 28 ans, c'est jeune. Et dans ce récit sur ce parcours d'Iris, eh bien, il est pleinement là. La raison est simple, il a fait une résidence artistique dans un foyer de personnes âgées. Sans doute le foyer des chênes, mais ça peut être juste un nom d'emprunt utilisé pour l'histoire. Et en tout cas, il y est resté plusieurs mois, il s'est complètement imprégné du parcours de ses pensionnaires, de leur personnalité. Il stipule à la fin qu'aucune ressemblance avec des personnes du foyer serait voulue. Elle est donc purement fortuite. Et il y a pourtant cette présence de ce lieu, de ces pensionnaires, de ces encadrants, des personnes présentes qui accompagnent les personnes âgées et qui lui donne cette vraisemblance essentielle pour la profondeur de cette histoire. Je voudrais vous lire une page qui figure bien à la fois le caractère de d'Iris. Et donc là, elle est dans une sorte de monologue qu'elle parle aux proches qu'elle a en photo sur sa table de chevet. Nous sommes page 30. Figure-toi que j'y suis allé. Mais je ne me vois pas vivre là-bas. Il n'y a que des vieux. Je te l'accorde, je ne suis pas issu de la dernière récolte. Mais quand même, là-bas c'est d'un autre niveau. C'est à se demander s'ils n'ont pas connu Calvin en personne. Et puis, ça sent toujours le vieux potage dans ces endroits. Et il y a également une autre page puissante, forte, où il y a des réflexions sur l'art abstrait. Iris va rencontrer une étudiante en histoire de l'art qui a fait ses études et qui cherche du travail et qui connaît bien le travail d'Iris Valmont. Quelques aphorismes sur l'art abstrait. L'art abstrait est insolent par nature. Que l'on soit artiste, intellectuel ou rien de tout ça, il bafoue notre entendement le plus profond. Et puis, la page suivante, ce qui lui laisse la légitimité d'exister, au-delà des marchés spéculatifs, c'est qu'il arrive d'une façon ou d'une autre à résonner en nous. Et ces mots sur l'art résonnent aussi par rapport à ce livre qui est riche de sa mise en image, où par exemple Fabien Menor a choisi de représenter les visions d'Iris avec sa maladie oculaire dégénérative, comment son rapport au monde peut se troubler, son rapport à la représentation, à l'art, à sa toile. À un moment, il y a une scène, elle est devant sa toile, elle vient de tracer une ligne droite et sa vision fait bouger littéralement cette ligne. Et donc, de façon audacieuse, mais toujours très narrative, l'auteur va donner à cette déformation une forme graphique qui va ainsi être une des chaînes narratives de ce livre. Et c'est une des très belles trouvailles de l'auteur. Il y a vraiment un livre qui va rapidement vous attraper. On est vraiment dans une autre façon de faire de la bande dessinée. Et Fabien Menor s'est pleinement approprié ces codes, en a trouvé d'autres pour représenter cette histoire d'Iris. Iris de Fabien Menor est un récit publié par les éditions Atrabile, éditeur suisse de Genève. Les 120 pages de ce livre sont au prix de 19 euros. Avec Il brûle, le jeune auteur à la double nationalité belge et marocaine se lance dans un triptyque d'ampleur. Démarré en 2022, avec Cendres et rivières, c'est le tome 2, le second opus, Prison et ciel, vient de paraître. Là, je reprends. Démarré en 2022 avec Cendres et rivières, l'opus 1, le second opus, Prison et ciel, vient de paraître. Ça y est. Présentation du récit. Dans un monde médiéval, hostile où sévit une implacable chasse aux sorcières, le jeune Georges, ainsi que Ongle et Pluie qui l'aident, deux étranges jeunes filles au passé traumatique, à fuir le sanctuaire, une prison de l'Inquisition. Dans leur errance désespérée, il et elle affrontent le mage, l'inquisiteur. Dans le tome 2, le trio est séparé. Ongle est livrée à elle-même dans la forêt. Elle perd doucement pied avec le monde des humains. Puis est prisonnière de l'inquisiteur, de l'inquisition. Elle s'attend à une mort imminente. Ce qui reste de Georges en elle est peut-être plus qu'un mirage. Il brûle est porté par un dessin noir et blanc rehaussé d'un lavis terre. Dessin intense, incandescent, proche de ce trio et de ses protagonistes. Et tracé à l'énergie avec un mouvement du trait en résonance avec ce monde médiéval. Il est au plus près de la dimension tragique du récit. La folie semble permanente. Dans les regards d'Anis, elle amourit. Il rend ainsi cette tragédie si proche. La mise en scène, le lettrage sont tracés avec la même énergie. Les dialogues gardent cette incandescence et confirme l'ampleur de cette tragédie. Anis El Amoury est avec nous pour qu'il nous présente Georges, Ongle et puis le trio de Il brûle. Bonjour Anis El Amoury.
Bonjour.
Alors, bonjour. J'ai un peu trébuché, ça arrive parfois.
C'est dur.
Alors,
beaucoup d'informations.
Anis El Amoury, vous êtes lancé dans ce triptyque. On a eu tout de suite le titre des trois volumes. Comment s'est mise en place cette histoire d'ampleur, puisque l'ensemble fera plus de 650 pages?
Ouais, dit comme ça, ça fait peur. Hein.
Bah non.
Oui. Bah, à moi. écoutez, en fait, c'est parti d'une envie. Après mon premier livre, qui était ce qu'on appelle un one-shot, donc un livre autoconclusif, j'avais envie de... J'ai eu cette envie de récit, cette envie d'un récit qui se déroule sur la longueur, sur une longueur très étendue, un peu ce qui s'approche un peu d'une saga, mais que j'aborde avec ma façon particulière de le faire. C'est-à-dire que j'ai eu tout de suite le tracé de vie à grande échelle des personnages. Et après, mon enjeu et ce que je voulais faire, c'était essayer de rentrer proche de rester proche de ces personnages, tout en gardant cette trajectoire à grande échelle. Donc, tout mon enjeu à chaque fois, c'est d'essayer de rentrer dans le livre de façon plus personnelle dans chaque tome. Donc là, c'est ce que j'ai fait avec le deuxième. Et voilà, je dirais que c'est ça l'exercice surtout, c'est d'avoir quelque chose qui était prévu, qui a toujours été prévu sur un cycle aussi long, mais de se laisser la capacité de le changer quand on est plus proche des personnages et quand on les connaît mieux, quoi.
Alors, Anis El Amoury, vous avez créé ce trio, donc il y a Georges, le garçon, et puis deux jeunes filles, Ongle et Pluie. Il y a cette dimension liée à la sorcellerie. Il y a cette façon dont on les accuse de sorcières. Elles ont certains pouvoirs. On est en pleine période médiévale, donc on imagine bien ce que représente l'accusation de sorcière à l'époque. Et comment est né ce trio de personnages et comment, qu'est-ce qu'il vous permet à vous?
Première chose que je vais dire, alors moi je dis Georg, mais
d'accord, mais il n'y a pas de souci. J'ai oui, failli vous demander au départ pour voir, pour être sûr. Alors allons-y pour Georg.
Non, mais moi je dis Georg, mais c'est voilà. Alors déjà le trio, en fait c'est la deuxième fois que je fais un trio de personnages, parce que c'était le cas aussi dans mon premier livre. Je sais pas, je trouve ça assez confortable. Ce trio, ce groupe, il est né de l'idée de faire un groupe qui n'en est pas exactement un au départ du tome 1. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on assimile directement à une unité de groupe, comme vous dites. Et au début du récit, on se rend assez vite compte que le personnage de Georg, il est vraiment, je dirais pas en rupture, mais il a un vécu très différent des deux jeunes filles qui ont vécu en captivité et qui ont subi des sévices physiques et psychiques très très importantes. Et donc il y a déjà une envie là-dedans de ce personnage de Georg d'aider ces jeunes filles, mais aussi d'essayer de les comprendre, mais avec tous ces angles morts. Et de la même façon, ça demande à ces deux jeunes filles de trouver un point d'ouverture dans la carapace qu'elles ont été forcées de se construire face au monde extérieur. Et donc tout un gros enjeu du tome 1, c'est cette union hétérogène entre les personnages et d'essayer de rentrer de construire en fait dans mon récit une amitié que je trouvais qui soit crédible et qui soit réel, qui ait un sentiment une sensation de réalité et donc comme dans beaucoup de relations humaines de disparité le groupe c'est des personnages qui sont très différents chacun, donc Georg il est très impulsif, il est très chaleureux, mais il est aussi très maladroit, il est un peu porté sur lui-même, il a beaucoup de biais, il est très enfantin en fait. Mais en même temps, il est le seul à connaître le monde extérieur. Et clairement, il a besoin d'être... il aime qu'on ait besoin de lui, quoi. Et donc il est un peu demandeur, quoi. Et à côté de ça, on a le personnage de Hong, qui est un personnage assez enfantin aussi, mais qui est très... qui a un deux visages un peu, qui a un visage très 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 innocent, mais aussi qui contient le plus de rage. Et à côté de ça, on a Pluie, qui est un personnage qui porte énormément de responsabilités sur ses épaules, car elle a un peu la figure de grande sœur ou une forme de pouvoir matriarcal. Elle est plus forte physiquement. Elle a l'impression qu'elle peut régler les problèmes par la force. Et en fait, c'est un peu ce qui la rend fragile quelque part. Et en fait, cet équilibre à trois pieds, ça me permet beaucoup de choses au niveau des interactions entre eux et de comprendre aussi comment ce qui les anime. Dans le premier tome, ils sont ensemble. Dans le deuxième, ils sont séparés. Ça a été une très belle exploration pour moi de mes personnages qui n'avaient pas le confort du groupe, quoi, qui n'avaient plus leur équilibre ensemble.
Alors justement, Anis El Amouri, comment par l'écriture se construit les trois personnalités de ce trio? Est-ce qu'il y a de la relecture? Est-ce que au fur et à mesure que les dialogues s'écrivent, vous les précisez, vous les relisez pour être au plus près des personnalités? Et vous avez évoqué le changement dans le tome 2. Le trio est séparé, ils sont dans trois endroits différents, on va dire, Georg étant considéré comme mort. C'est une grande liberté aussi de pouvoir faire ça à ces personnages.
Oui, c'est sûr. Ça, c'est toujours des découvertes. Hein. Alors, c'est ça que je vous disais tantôt quand je vous parlais du fait que j'ai un tracé pour les personnages, mais il y a beaucoup de choses qui sont décidées de façon impulsive au moment de l'écriture, parce que je fonctionne beaucoup comme ça. Et pour les personnages, c'est pareil. J'ai des idées générales de ce qui les anime, ce qu'ils sont, etc. Mais sans avoir une explication pure. J'aime pas trop qu'ils soient. Enfin, il y a des choses qui les définissent et il y a des événements qui les ont marqués et je les connais. Mais j'aime bien qu'ils ne soient pas juste une équation que j'ai résolue. Parce que sinon, à ce moment-là, et je trouve que ça, il y a trop de. Moi, personnellement, dans mon processus d'écriture, s'il y a ça, il y a trop de froideur. Et donc, c'est un truc où. Quand je fais des scènes, j'écris des scènes, j'écris des dialogues, comme vous dites, ben je me laisse beaucoup porter par l'ambiance de la scène ou est-ce que ce serait pas mal que, enfin, comment il pourrait réagir et des fois c'est un plaisir de découvrir des interactions que j'ai pas faites avant ou je me pose la question pendant que j'écris de qu'est-ce qu'il pourrait faire, qu'est-ce qu'il pourrait ne pas faire et des fois ben voilà je sais que c'est un truc qui est un peu impensif quand on écrit de la fiction, les gens qui disent que les personnages les surprennent ou agissent par eux-mêmes, etc. Et sans aller exactement jusque-là, ben, je ressens quelque chose de ça, d'être surpris par mes personnages, surpris par leurs réactions ou la façon dont ils peuvent se trouver des ressources là où moi je m'attendais pas. Parce que, en fait, globalement, c'est un peu comme si moi je les mettais sous contrainte avec tout ce que je décide de faire. Qui leur arrive, tous les événements qui régissent le récit. Et des fois, j'ai l'impression qu'au sein de ce canevas que je leur ai dressé, ils trouvent des moyens de se réinventer, de continuer à exister en tant qu'eux-mêmes, quoi. En tant que, pas juste des corps agissants, mais des personnalités. Voilà.
Anicel Amoury, je vous propose une pause musicale et on se retrouve donc après le morceau d'Ajay Cook pour parler dessin, qui est aussi tout à fait dans cette même énergie. À tout de suite.
À tout de suite.
Just give me a reason, yeah, I'll dig deeper and deeper. I'll take a similar summer, make it colder than winter. Mental teacher could start me learning your secret of how to turn to dust like everybody
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Anis El Amoury à l'occasion de la parution du tome 2 de son triptyque Il brûle. Anis El Amoury, quel dessinateur êtes-vous ? Parce que ces deux livres sont dessinés à l'énergie. Il y a une tension, une dynamique, une vivacité dans le trait qui ne disparaît pas, qui reste la même tout au long des pages.
Quel dessinateur je suis ? Bonne question. Je crois que je suis déjà un peu chaotique. Ça c'est un peu comme ça que je suis. Quand j'étais plus jeune, je pense que j'avais eu un peu un moment envie d'être un dessinateur plus appliqué. Ça me demandait énormément d'efforts pour aller un peu contre ma nature et le résultat était pas foufou, j'avoue. Donc je pense que j'ai eu un professeur qui m'a beaucoup encouragé à chercher dans ma ligne plus spontanée quelque chose qui manquait à mon dessin. Et ça a été beaucoup de révélations à partir de là et ça a beaucoup déployé mon envie de, enfin ça a précisé un peu mon envie en dessin, mes envies en dessin. Et je dirais que là maintenant, avec les années qui sont passées et tout, c'est un mélange de précision et d'imprécision quoi. C'est surtout que j'aime bien sentir l'émotion dans le dessin. Et sinon, je me perds un peu. Et donc, il y a un côté un peu frénétique, il y a un côté un peu accumulation de petits traits, de trucs comme ça et tout. Et moi, j'aime bien être j'aime bien être proche de l'émotion que j'ai quand je dessine, quoi. Donc, c'est beaucoup ça, quoi. Je dirais.
Alors, il y a aussi un point où on a la même énergie dans la mise en scène. Alors, comment travaillez-vous, Anis El Amoury ? Est-ce que vous faites juste un canevas ? Ou est-ce qu'il y a une suite dialoguée plus écrite avant de passer au dessin ? Ou est-ce que l'écriture est vraiment dessinée et vous y allez tout de suite ?
Ben ouais, j'y vais à peu près tout de suite en fait. C'est-à-dire que je fais un genre de brouillon qui on appelle découpage dans le milieu de la BD, mais en gros c'est un genre de storyboard quoi. Et en fait à ce moment-là en général j'ai une idée de l'angle du récit, enfin de la structure du récit si c'est pour un livre etc. De combien de pages, de qu'est-ce que je vais traiter à peu près. Les scènes quoi et puis à partir de là je commence une scène et je commence à l'écrire et je la dessine en même temps que je fais les dialogues souvent du coup quand j'ai pas trop d'idées de dialogue enfin quand je sais pas par quoi commencer un dialogue je fais peut-être un dessin pour essayer de me mettre dans l'ambiance et inversement comme parfois je sais il y a quelque chose qui doit être dit et du coup je place les textes d'abord. Où je place les textes dans la page, c'est important pour moi. Vous en parliez tantôt, mais l'écriture des dialogues, les phrases, il faut qu'elles... Enfin, c'est un truc de rythme, quoi. Et donc, moi, j'écris ça comme une mise en scène d'un seul coup. Il n'y a pas de texte que j'ai fait avant. Ça m'est très rarement arrivé. J'ai pu le faire pour des projets très précis. Mais en général, j'essaye de tout faire en même temps, ce qui n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de trucs à faire en même temps, mais c'est comme ça que pour moi ça vient plus naturellement en bande dessinée et que j'ai l'impression que ça devient quelque chose que, enfin, c'est la matière que je manipule plus facilement, quoi. Donc après, je sais pas, c'est sur du papier que je fais ça. Donc des fois, je découpe des cases, je me dis ah ça c'est pas bien mis. Donc c'est comme si j'allais en salle de montage et puis après je change un peu les trucs, tac tac tac. Et voilà. Et je pense beaucoup au rythme et un peu. Et je pense pas mal au son et au dialogue. Enfin, vraiment un truc de temporalité. Et c'est comme ça que je réfléchis beaucoup, quoi.
Alors il y a dans votre récit une dimension tragique importante. La folie affleure à de très nombreux moments. Est-ce que dessiner cette dimension tragique est particulier ?
Ouais, c'est une bonne question. Oui, il y a quelque chose de tragique, peut-être un peu mélo des fois dans mes récits. Et je ne sais pas exactement. C'est compliqué parce que c'est quelque chose que j'aime aussi beaucoup dans les fictions que j'aime, dans les récits que j'aime. Je trouve qu'il y a quelque chose de cathartique dans des situations qui sont très extrêmes et qui m'amène en fait dans des endroits de réflexion émotionnelle ou de contemplation émotionnelle que je trouve étrangement et paradoxalement apaisant en fait. Pourquoi, enfin, qu'est-ce qui me fascine là-dedans, je suis pas tout à fait sûr de savoir exactement, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui sort ça presque un peu du réel tout en le gardant lié. C'est-à-dire que j'imagine des situations qui sont très extrêmes et en fait j'essaye de trouver une connexion, de me projeter là-dedans et de projeter les personnages là-dedans en restant, en concentrant sur le détail et sur certains détails émotionnels, quoi. Et après, par rapport à ça, j'ai quand même changé au cours des années, parce que là il y a des choses auxquelles je fais plus attention. Ça m'intéresse pas trop de faire ce qu'on pourrait appeler une forme de pornographie de la douleur, quoi. De faire de mes personnages des simples victimes passives, c'est un truc auquel je pense plus attention qu'avant. Alors qu'avant, auparavant, je dirais que j'étais plus dans une surenchère. Je pouvais aller dans une surenchère pour le plaisir, un peu presque burlesque des fois, ce qui peut être tentant. Mais voilà, je ne sais pas exactement. En tout cas, il y a quelque chose de cathartique là-dedans. Il y a quelque chose qui moi me fait du bien parce que au milieu de cette tragédie, il y a aussi un truc important pour moi. Je peux tout à fait entendre qu'il y ait des gens qui le voient pas et voilà. Mais pour moi, il y a aussi beaucoup de lumière et justement une forme de résilience, de l'amitié, de la foi, de la volonté de poursuivre et d'être en vie en fait. Donc voilà.
Il y a une référence au sacré dans votre récit. De toute façon, l'Inquisition fait partie de ce pouvoir religieux, de cette violence religieuse. Comment est-ce que vous avez vraiment imaginé le tome 3 qui reste à paraître ? Et ce rapport avec la violence et le sacré ?
Ben alors je l'ai imaginé, j'ai imaginé dans les grandes lignes, là il faut vraiment que je l'écrive, ce qui est une autre paire de manches, donc je vois à peu près où ça va, je dirais, mais j'ai hâte de le découvrir en détail, quoi. Et sinon pour ce qui est de la violence et le sacré, alors c'est intéressant parce que je dirais que dans le tome 1, la religion qui est dans le monde est très peu définie, elle est très proche et très facile à fusionner avec un genre de christianisme et avec un genre de, voilà, comme on pourrait dire, de chasse aux sorcières médiévales, un peu comme dans l'imaginaire collectif. Et c'était effectivement mon inspiration du tome 1. Et genre dans le tome 2, j'ai voulu un peu autonomiser mon univers de ça. C'était un peu un plaisir d'envoyer un message qui est que ce n'est pas le Moyen-Âge exactement le nôtre, c'est un autre monde et il y a autre chose. Et en fait, c'est là que j'ai plus exploré cette dimension sacrée, cette religion qui pouvait exister dans ce monde, en me disant je peux inventer des trucs, je peux ne pas partir sur les mêmes biais que nous on a dans nos mondes, des religions, des grandes religions qu'on connaît. Et ça, c'était un vrai plaisir de faire ça, d'inventer autre chose, quoi. Et surtout, c'est un pouvoir que j'ai mis en place. Bon, là, j'ai mis sous l'image d'un pouvoir sacré, quoi, qui est donné par quelque chose de religieux. Mais je dirais que c'est avant tout, dans le récit, une forme de pouvoir autoritaire. Je suis pas... C'est-à-dire que c'est les gens qui ont le pouvoir, c'est les gens qui ont les moyens de faire plier la société, d'inventer des lois, d'inventer des dogmes, d'inventer une idéologie, en fait, simplement. Et qui est donc un moyen d'installer un régime d'oppression d'une minorité de façon systémique, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse avant tout. Genre, l'amener dans l'idée jusqu'à l'extrémité du sacré, c'est une forme de rhétorique, en fait. Parce que on pourrait dire ça d'une idéologie politique, en fait. Elle aurait les mêmes moyens de... Sauf que là, ça accentue ses caractéristiques, je dirais. C'est plus facile de convaincre mes lectrices que ça, c'est de l'ordre simplement de la croyance arbitraire. Donc une forme d'oppression arbitraire d'une frange de la société.
Anis Amouri, quels sont vos doutes ?
Quels sont mes doutes? je dirais mes doutes sont à peu près partout, quoi. je doute de je dirais que j'ai peur que la fin ne soit pas à la hauteur de ce que j'avais imaginé dans ma tête ou que les lecteurs soient déçus et tout, et surtout aussi de pas être à la hauteur de ce que je porte de mes personnages. Et j'ai des doutes sur vraiment énormément de choses dans le récit. J'en ai tout le temps en permanence pendant que j'écris. Mes proches, je leur montre des trucs tout le temps. Je suis là genre, vous croyez que ça c'est bien? Vous trouvez pas ça bizarre? J'ai toujours peur de mal dessiner ou de briser l'immersion du récit. Je doute en permanence, je dirais, de à peu près tout. mais je crois que c'est pas mal aussi. Enfin, c'est pas. Je pense que si je me posais pas trop de questions. En fait, je crois que c'est bien, en fait, parce que aussi ça fait que je peux changer d'avis sur des choses, et du coup, le deuxième livre, il me ressemble beaucoup aujourd'hui. Il ressemble pas forcément à l'idée que j'en avais quand j'y ai pensé la première fois il y a 6 ans, quoi. Il me ressemble plus aujourd'hui, et je suis trop content que ces doutes y fassent naître des livres qui grandissent avec moi, ou en tout cas un projet qui grandit avec moi. Et qui laisse de la place à justement des changements d'avis, quoi.
Merci beaucoup, Anis El Amouri, pour cette immersion que vous nous avez proposée. Ce tome 2, je n'ai pas le prix, mais il fait 235 pages, me semble-t-il.
Oui, je connais le nombre de planches, qui sont au nombre de 225, mais je crois que c'est 230 pages, effectivement. Voilà. Le prix, c'est 24 euros.
Voilà, ce qui est tout à fait raisonnable. Oui, moi, j'ai un PDF sous les yeux, et donc je n'ai pas pu vous le donner. Merci beaucoup, en tout cas, et très bonne continuation. À bientôt.
Je vous en prie. Merci à vous. Au revoir.
Church. Je voudrais terminer cette émission avec un livre remarquable. C'est toujours difficile d'employer de tels qualificatifs parce que on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Ben, j'y vais, mais par contre, je vais vous dire ce qu'il y a derrière. Alors, c'est Monsieur Chouette de David B. qui est publié par l'association. David B. est un des cofondateurs de l'association. Et il a démarré, c'est un des premiers livres qui a été publié par l'association, c'était Cheval Blême, qui était des cauchemars que David B. avait notés pendant une dizaine d'années et qu'il avait transformés en nouvelles noires fantastiques. Alors, Monsieur B., est un récit sur le pays des morts où il fait nuit, une jeune femme marche en rasant les murs afin d'éviter son ombre dont la forme carnassière inquiète. Un curieux personnage, l'apostrophe, c'est Monsieur Chouette qui propose de la guider à travers le pays des morts. S'ensuit un voyage aussi fantastique qu'inquiétant. Car au pays des morts, tout est si éphémère que chaque jour, les immeubles se transforment, poussés par l'arrivée de nouveaux bâtiments morts, tandis que les voitures rejouent continuellement l'accident qui les a menés à la casse. Un monde surpeuplé où se bouscule une foule bigarrée qui craint plus que tout Cerbère, créature canine au flair infaillible, maître du lieu redouté, et qui apparaît sous la forme de trois chiens, trois Cerbères de taille très différente. Alors comment se traduit dans ce récit, comment le dessin et la précision extrême du dessin portent une telle histoire ? Cette précision du dessin est vraiment une des caractéristiques du livre et elle apparaît immédiatement dès qu'on le feuillette. Alors, la précision du dessin est une idée, une forme, mais concrètement, eh bien, elle apparaît par l'attention qui transparaît dans le dessin de chaque case. C'est-à-dire que l'auteur-dessinateur va bien sûr composer l'image, va la cadrer, va en définir le contenu, mais au moment de le tracer, de le dessiner, il va y avoir une précision dans son geste et qui apparaît immédiatement à l'image, notamment sur la façon dont il va animer les matières, dont il va animer les formes, le mouvement des habits, des cheveux. Et il va aussi caractériser la lumière, la pénombre. Et par exemple, sur une page, on voit cette femme vivante au pays des morts qui est de dos. Et le travail de hachure est extrêmement précis. Ce n'est pas un travail de hachure croisé, c'est une succession de traits parallèles, très finement tracés pour qu'il n'y ait pas d'épaississement. Il apparaît de temps en temps par quelques points et il est d'une grande délicatesse. Lorsqu'il y a l'animation de la chevelure de cette femme, les traits de mouvement sont parallèles, tracés avec précision. Il n'y a pas de croisement. Et il y a toujours, à chaque fois, une représentation qui définit pleinement et très efficacement chaque image avec la matière du bois qui va apparaître, les briques, les habits, les mouvements des habits, les cheveux, tout cela va faire sens dans l'image. Il y a également, dans cette précision du dessin, des représentations qui sont complètement inhabituelles en bande dessinée. Et ce thème du pays des morts est tout à fait important, puisque ça offre au dessinateur, à l'auteur-dessinateur, une très, très grande liberté de création. J'ai évoqué dans le récit les immeubles qui peuvent mourir et qui peuvent se retrouver au pays des morts. Mais leur représentation n'aura rien de sage comme ceux qu'on peut voir dans une ville. Là, il y a une accumulation, une superposition de ces immeubles qui arrivent les uns sur les autres constamment. Et David B. va presque prendre cette représentation comme un défi, va aller jusque dans un dessin constamment efficace sur le dessin de chaque immeuble, de cet enchevêtrement, de ces surfaces vitrées qui sont souvent dessinées avec du noir pour montrer que c'est le vide que l'on a derrière, ce n'est pas un mur qui arrête la lumière. Et il y a donc tout de suite à la lecture de l'image une épaisseur, une intensité qui apparaît immédiatement. Il y a les lieux aussi, des références par exemple au Chat Ivre. Il y a des cabarets qui ont porté des noms de chats comme le Chat Noir. Et au Pays des Morts, on va retrouver des ambiances de café, si ce n'est que là, les personnages n'auront pas du tout les mêmes représentations parce que leur visage, leur expression, eh bien, sont complètement libres. Les individus n'ont pas, même s'il y a un corps avec ces formes habituelles, mais les visages, les têtes, les costumes vont être complètement libres. Il y a Monsieur Chouette qui va détonner, qui a vraiment qui est un personnage de Chouette, avec son costume, son col amidonné et ses grandes oreilles de Chouette. Le Cerbère est aussi assez terrifiant dans sa représentation. Il y a donc immédiatement un plaisir graphique de cette qualité de la représentation qui, au niveau du lecteur, donne un enthousiasme de lecture rare, véritablement rare. Il y a des personnages comme ces deux singes savants, prophètes, qui vont aussi avoir toute une chaîne narrative et une présence dans le récit importante. On est dans une sorte d'univers où on peut aller vers le surréalisme, dans la façon de traiter ce monde des morts qui parfois peut avoir des allures un peu sages, mais qui très vite va toujours se décaler, se déraper, et pour avoir une sorte de folie inhérente au lieu. En fait, David B. crée sa propre mythologie, son propre univers des morts. Imagine comment une vivante peut résister à cette surveillance des Cerbères, donne à cette traque par ces gardiens du pays des morts une puissance et une force qui fait que c'est une tâche rude de leur échapper. Et il y a constamment l'innovation dans le récit, dans cette façon de raconter ce monde des morts. Le troisième pôle de la bande dessinée, qui est la mise en scène, le découpage, a exactement la même précision. Chaque double page est véritablement conçue dans sa totalité, avec les regards qui vont aller vers le centre de cette double page qui va permettre au lecteur de rester un peu plus intensément dans ces unités de récit. Et on va avoir vraiment un équilibre des noirs, un équilibre des blancs aussi dans ce noir et blanc très riche. Et on a là constamment une vie, une intensité dans le découpage qui là aussi est tout à fait rare. C'est une expérience de lecture parce que vous n'en avez pas vécu d'autres comme ça. Il y a une création, un univers qui est vraiment mis en place et qui prend toute son épaisseur grâce à cette intensité, cette précision qui est à tous les niveaux de l'écriture dessinée, c'est-à-dire le texte, les dialogues, le découpage, le dessin, mais également le lettrage. David B. a un très beau lettrage. C'est un livre remarquable qui est au prix de 35 euros. C'est un livre imposant. Le CNL a participé à la création. David B. a dû avoir une bourse du CNL. Il existe un tirage de luxe tiré à 100 exemplaires avec 16 pages supplémentaires et un dessin de l'auteur. Il est au prix de 480 euros. C'est également aussi l'occasion de rappeler l'association a lancé un financement participatif. Elle a besoin de trésorerie, de dons. Et cet éditeur indépendant qui a été un des phares de l'édition indépendante, avec plus de 800 titres édités, publiés, eh bien, cette fois a besoin de notre soutien. Merci Fabien pour cette émission et je vous souhaite une très bonne semaine à tous sur les ondes de Radio Escapade.
Écriture dessinée.